vendredi 22 avril. Bienvenue au show du matin. Je débute simplement parce que je pense que je n'ai pas le choix, mais on a appris une triste nouvelle ce matin, le départ de M. Guy Lafleur. Donc, je tiens juste à souhaiter mes condoléances à la famille et au Québec, en fait, parce que tout le monde adorait Guy Lafleur. Je vous invite, messieurs, à vous joindre à moi pour ce message. Antoine, merci d'être là ce matin. On a deux invités d'extrême qualité, selon moi, ce matin. Super content de les recevoir. C'est des gens, André, tu es venu quelques fois. Jeff, c'est ta deuxième présence avec nous. Merci d'être là, les boys. Vous avez une grosse semaine, je pense, lancement du livre Team Chemistry. Jeff, je commence avec toi. Comment ça se passe?
Ben écoute, ça se passe super bien. C'est toujours excitant lorsqu'un livre... moi, c'est mon deuxième, là. Puis lorsqu'un livre, tu sais, prend naissance, j'ai toujours dit un livre, c'est un peu comme un enfant, tu sais, ça n'existait pas avant, puis tu l'as créé, puis à un moment donné, si le livre fait bien, c'est parce que tu t'en occupes. Fait qu'on est un peu là-dedans, tu sais, on fait plein d'entrevues, moi puis André, on tripe là, cette semaine, on a fait plein de podcasts, des conversations super intéressantes, fait que c'est super stimulant.
L'idée du livre est venue d'où? Parce que ça peut être quand même un bon cheminement à partir d'un livre comme celui-là pour arriver justement à l'imprimer. Le chemin peut être quand même long, là.
Ben, moi, je tiens à remercier un Mexicain, présentateur, conférencier extrêmement poche que j'ai vu à un moment donné qui m'a permis de partir dans mes pensées. Je tiens à souligner sa contribution ce matin. mais en fait, ça a commencé comme ça. Hein. J'étais dans une. En fait, on a fait longtemps qu'on voulait en écrire un, JF et moi. Puis le concept de tableau périodique des éléments associés au coaching, associés à la chimie d'équipe, ben, c'est venu à un moment donné que j'étais parti dans mes pensées. Puis je me suis mis à gribouiller sur un morceau de papier, puis j'ai envoyé des infos à GF qui ne comprenait rien. Puis à partir de là, ben, ça a débouillé.
Tout mon projet commence sur une napkin, il paraît. Donc, ça a bien fait. Ouais. Ça.
J'ai envie, parce que je sais que vous êtes des amis de longue date. GF, André, c'est ton prof. Juste un peu, GF, expliquez un peu votre relation. Elle commence de où? Parce que j'ai vu sur Twitter, je pense hier, là, parce que j'étais pas mal sur les réseaux sociaux, mais tu as marqué... Justement, André, ce qui représentait pour toi, puis un peu votre background. Juste expliquer aux gens qui ne vous connaissent pas nécessairement ou ne connaissent pas cet aspect-là de vous.
Oui, mais c'est quand même spécial. T'sais. De plus en plus que j'y pense puis j'en parle, je ne suis pas certain qu'il y a tant de gens qui ont une relation comme moi et André on a depuis les 20 dernières années. Je veux dire, André, c'était mon prof à l'Université d'Ottawa il y a plus que 20 ans maintenant. Puis, c'était un des meilleurs profs qu'on avait dans le programme en activité physique à l'Université d'Ottawa. Moi, j'ai toujours gardé près de moi les gens qui m'ont beaucoup inspiré, les gens qui ont eu un impact sur ma vie. Fait que j'avais pas le choix de garder André dans ma vie. Tu sais, à l'époque, j'avais 19, 20 ans. Tu sais, on a tous eu cet âge-là, les gars. À cet âge-là, on cherche. On se connaît pas encore. On devient adulte. Puis, pour moi, André est devenu un mentor. C'est quelqu'un qui avait pas peur de faire les choses différemment. Puis, moi, je m'accrochais beaucoup à ça. Puis, de pas avoir peur de foncer, puis de dire sa façon de penser. Puis, de fil en aiguille, on est resté des amis. Moi, je l'ai utilisé beaucoup dans ma compagnie, donner des conférences, puis tout ça. Puis, comme André a dit, on a toujours dit qu'on voulait combiner nos expertises, nos idées, puis d'écrire un livre.
Puis, Jeff, ben, j'ai lu ton livre, Olympien au bureau, qui était excellent. Fait que je m'engage à lire celui-là, assurément, parce que je pense que c'est une excellente lecture à venir.
Ouais, mais tu pourras le passer, Jeff, après, parce que je pense que c'est effectivement un livre que j'ai aussi dans mes coups de cœur. Parce que quand on publie un livre comme ça, on a un objectif, on a un but. Peut-être des fois qu'il est un peu plus caché. C'était quoi votre but, vous, en offrant ce livre-là justement au lecteur?
Juste avant, Jeff, au lieu d'y passer, tu lui diras s'en acheter un lui-même.
C'est ça.
Ben oui.
J'allais dire, en plus, je vais vous le faire autographier, puis Antoine, ses grosses pattes, il magane tout, là, fait que je vais le garder.
Pas de coucher, c'est ça que ça fait.
L'idée derrière tout ça, c'est qu'au cours des dernières années, autant JF que moi, on a été hautement impliqués dans du coaching. Différents types de coaching. JF est peut-être plus au côté mental. Par contre, il travaillait avec des entraîneurs aussi. Il travaille encore avec des entraîneurs d'équipe de sport individuel, peu importe le niveau, mais plus spécifiquement au haut niveau. Puis la même chose pour moi aussi. Fait qu'on s'est dit que, il n'y a pas énormément de ressources hyper pratique. Nous, on est deux gars super pratiques. Dans le sens que en lisant le livre, les coachs vont être en mesure de voler certaines idées. Puis c'est ça notre objectif, c'est que le lecteur puisse s'approprier ces idées-là, les change à leur goût, les mettre à leur saveur, puis puisse les appliquer dans leur monde dès demain à la prochaine pratique. C'est aussi pratique que ça. puis c'était de faire réfléchir aussi. Parce qu'au bout du compte, c'est quand tu écris, dans mon cas, moi, en écrivant un livre, non seulement ça m'a permis de partager un peu de savoir, mais en même temps, ça m'a fait réfléchir sur ma pratique aussi en même temps. T'sais, quand je le relis, le livre, je me dis, OK, ben j'aurais pu être meilleur là-dedans. T'sais, j'aurais peut-être pu faire les choses différemment. Puis en lisant, tu te dis, ben tu sais, oui, je me considère comme ayant eu un certain succès, mais en même temps, il n'y a personne de parfait, et en moi le premier, on n'est pas parfait. Puis ça me faisait réfléchir sur, ben, tu sais, les prochaines fois, là, cet aspect-là, je peux peut-être être meilleur là-dedans. Puis c'est un peu ça, c'est qu'au bout du compte, si on peut, là, je l'ai dit beaucoup, JF va rire, là, mais si on peut en arriver à avoir des coachs, au lieu d'avoir 25 ans d'expérience, au lieu d'avoir, tu sais, de faire la différence entre un coach qui a 25 ans d'expérience puis un coach qui a 25 fois la même année d'expérience, c'est pas une affaire. Fait que, tu sais, c'est d'en arriver à avoir vraiment une expérience qui est continue, bâtie sur du solide puis sur le développement continu. Fait que c'est un peu ça.
Ce que j'ajouterais, Antoine, à ta question, c'est une excellente question en passant parce que moi et André, je vais dire en toute transparence, on était un petit peu frustrés qu'on n'avait pas accès à des ressources comme des livres ou des conférences où est-ce qu'on peut vraiment... Tu sais, qu'on dépasse un peu le qu'on sort de la boîte. Puis c'est un peu ça, l'idée du livre. C'est que, tu sais, on met en évidence des choses que tous les coachs vont vivre à un moment donné. Puis tu sais, on n'a pas peur d'en parler, là. Fait qu'on a un chapitre, par exemple, qui s'appelle Welcome, ou Bienvenue en français. Puis c'est un chapitre sur l'inclusion. Puis il y a plein de terminologies qu'on utilise dans le monde du sport que ça passe plus maintenant en 2022. Puis on donne des exemples très clairs, là, tu sais. Comme genre, par exemple, dire « Hey, guys! » Quand on parle à plein de monde, bien, souvent, on dit ça, puis il y a des femmes ou des filles dans le groupe. Tu peux pas dire « Hey, guys! » Ça se dit plus. Tu dis « Hey, groupe! » ou « Hey, gang! » Fait qu'on donne plein de choses évidentes comme ça. Même couper un athlète. On a un chapitre qui s'appelle le « Hatchet ». « Hatchet », c'est une petite hache en anglais. Mais quand ça vient de temps de couper un athlète, tu sais, il y a un processus, il y a une espèce de protocole professionnel et respectueux à suivre pour s'assurer de bien le faire. Parce que, au bout du compte, la façon que tu vas retrancher quelqu'un, ça représente tes valeurs à titre de leader, ça représente ton organisation et ton équipe. Alors, fait qu'on on donne plein d'exemples comme ça. Puis moi, je suis hyper fier, puis j'encourage les gens de consulter pour cette raison-là, parce qu'on ne partage pas des théories, on ne partage pas, tu sais, des espèces de concepts abstraits, c'est straight to the point. Puis, je pense qu'il n'y en a pas assez de ça. Puis, en vrai, t'en penses quoi? Je pense qu'on a réussi, vraiment, là.
Tout à fait. Puis, en même temps, c'est pas non plus, tu sais, on l'a dit souvent cette semaine, c'est pas non plus un livre de recettes où tu dois prendre les ingrédients, puis qu'en le faisant, ça t'assure le succès. Tu sais, on n'a pas cette prétention-là, loin de là, là. Mais on pense que certains de ces éléments-là peuvent améliorer justement la façon dont l'expérience va se passer chez les athlètes, peu importe le niveau, pour justement faire en sorte que les joueurs, les joueuses, les athlètes aient le goût de revenir l'année d'après. Puis au bout du compte, ben, c'est ça l'expérience sportive, on veut les garder.
Oui. Tu as mentionné tantôt, André, 25 ans d'expérience ou 25 fois la même expérience. Je trouve ça super intéressant. Je pense que c'est la première personne que j'ai entendu ça de toi. Les deux, vous venez de vivre des expériences quand même intenses. André, tu viens de changer de carrière, tu es rendu avec le Cirque du Soleil. JF, tu arrives des Jeux olympiques. Ce livre-là était déjà en marche quand vous avez vécu ces expériences-là. Est-ce que vous avez repensé à vos expériences puis repensé à ce que vous avez écrit dans le livre à cause de ces expériences-là?
Bien, moi, je ne dirais pas particulièrement à cause de ces expériences-là, mais avec mon premier livre qui est sorti au mois de novembre 2019, il y a déjà des choses dans mon livre que je n'aime pas. Il y a déjà des choses dans mon livre que je changerais puis que je me dis, ben non, j'utilise même plus ce concept-là. Comme, ouais, peut-être ça tient la route un peu, là, mais puis André, tu vas voir, ça va être la même chose pour nous dans 2-3 ans. On va lire certains de nos chapitres, on va se dire, ben non, donc, pourquoi qu'on écrit ça? T'sais, on va être rendu ailleurs. Fait que moi, c'est plus ça ma réponse à ta question, Jeff. Peut-être pas tant ce que je viens de vivre avec les Jeux olympiques, mais au fil du temps, je pense que c'est une de nos grandes forces à moi et André, c'est qu'on se remet toujours en question. Puis on ne va jamais juste utiliser une technique ou une stratégie ou dire quelque chose à un athlète qu'on a déjà dit dans le passé parce que ça a fonctionné. Moi, je nous donne crédit, André. Je pense qu'on a un réflexe à toujours être à l'affût de ce que l'athlète a besoin ou l'équipe a besoin. Puis de ne pas avoir peur d'être créatif dans nos façons de faire, d'essayer de quoi. Des fois, ça ne marche pas. Tu dis quelque chose, ça ne marche pas. Mais tu le sais que ça ne marche pas, fait que tu dis autre chose.
Fait que... Et tu sais, si tu coaches aujourd'hui comme si tu coachais il y a 5-10 ans, t'inquiète, c'est pas bien. C'est parce que tu comprends pas. Là. C'est parce que le monde évolue tellement vite. Les jeunes d'aujourd'hui ont une façon de réfléchir, d'apprendre, différemment des jeunes de la génération d'avant. Fait que l'idée derrière ce livre-là aussi, c'était de stimuler puis de challenger les coachs à dire, ben, si tu veux répondre aux besoins des jeunes aujourd'hui, si tu veux faire de cette expérience collective-là, parce qu'on est dans un sport d'équipe, on parle de chimie d'équipe, quoique le livre s'adresse aussi à des sports individuels parce qu'on s'entraîne en équipe, faut pas se le cacher, puis il y a des équipes partout. Hein. Fait que ceci étant dit, c'était de faire en sorte qu'on challenge les coachs à toujours être à l'affût, puis de s'auto-évaluer, puis de trouver des façons, puis on en mentionne dans le livre également, trouver des façons de s'auto-évaluer, trouver des façons de faire pour devenir toujours meilleur au quotidien. Puis c'est ce qu'on oublie malheureusement trop souvent de faire.
Souvent, tu sais, on dit les temps changent, c'est un grand concept, mais moi, lorsque je regarde les deux derniers Olympiques, que ce soit 2020 à Tokyo ou 2022 à Beijing, on a vu beaucoup d'athlètes qui ont tout simplement craqué, qui ont cassé, je pense au tennis à Naomi Osaka. On peut penser à des athlètes aussi en ski, si je ne me trompe pas, cette année aux Jeux Olympiques. On dit beaucoup que ça passe par le mental, puis je suis convaincu que dans votre livre, il y a peut-être une section par rapport à ça, parce que on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, le mental, mais on a vraiment l'impression que le mental vient jouer beaucoup sur les performances de haut niveau. Qu'est-ce que vous aimez approcher de ce côté-là, de dire qu'on doit travailler là-dessus pour permettre aux athlètes d'être de meilleurs athlètes avec les conseils des entraîneurs?
Ben, en fait, il y a Simone Biles aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier là, en
gymnastique. Oui, c'est ça.
Ouais. C'est, ça n'a pas été facile. Moi, je vais, au lieu de parler de l'importance de la préparation mentale chez les athlètes, je vais parler de l'importance de la préparation mentale chez le coach. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Un coach performe aussi. La performance d'un coach pendant un match est extrêmement importante, et surtout dans votre sport, les gars. Je veux dire, en baseball, il y a tellement de décisions qui doivent être prises à toutes les minutes du match que, tu sais, c'est quelqu'un qui n'est pas en bonne forme physique et psychologique, tu ne te concentres pas pareil. Tu n'as pas le montant d'énergie qu'un coach qui est en forme. Puis on le voit de plus en plus, des entraîneurs qui sont vraiment en shape. Là. Ils s'occupent de leur santé, ils passent beaucoup de temps dans le gym, ils dorment bien, font de la méditation. Puis justement, on a un chapitre qui s'appelle, ça ne s'appelle pas leadership, ça s'appelle leader of ship. Puis c'est pour faire comprendre que, puis moi puis André, c'est un peu notre philosophie, c'est que le coach représente l'équipe. Puis tu regardes comment est-ce que les athlètes se comportent, c'est un miroir au coach. Pensez-y. Moi, j'utilise souvent le hockey comme exemple. Des joueurs qui prennent des pénalités stupides sur la glace, regardez comment le coach se comporte derrière le banc. Souvent, c'est un coach qui crie puis qui est un peu partout. Donc, l'importance du coach qui s'occupe de sa santé, qu'il soit fort ou qu'elle soit forte mentalement, pour moi, c'est essentiel dans le sport d'aujourd'hui.
Et souvent, moi, j'ai... Moi, je l'ai appris un peu sur le tard à prendre soin de ma préparation comme coach. Puis aussi tard que 2016, où j'ai commencé à avoir une routine un petit peu plus établie. Puis au baseball, on a toujours le championnat du monde, tu as la pratique au bâton d'avant-match. Il n'y a pas beaucoup d'apprentissage là. C'est une préparation à la performance. C'est plus une préparation mentale pour les athlètes, etc. Puis les coachs, on est tout le temps là. Des fois, on frappe un peu de fond de goal, puis ça. Puis des fois, moi, je regarde ça et me dis, bon, je suis vraiment utile, moi, là, ici, présentement. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, bon, OK, 15 minutes avant la fin, je serais peut-être plus utile à m'en aller sur le terrain où on va jouer parce qu'on fallait changer de terrain. Puis je vais commencer à organiser l'abri des joueurs à mon goût, au goût des athlètes, etc., avec mon X, la chaise, puis tu sais, mon système un peu. Puis moi, ça me préparait en même temps. Ça me préparait justement au match mentalement. Fait que c'est ça que je pense que JF veut dire. C'est que, tu sais, oui, on parle beaucoup de la préparation mentale des athlètes, mais nous, comme entraîneurs, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? Souvent, on néglige un peu trop.
Est-ce qu'on peut le transposer aussi, messieurs, au niveau des parents puis des coachs plus jeunes? Parce que oui, on parle de haute performance, mais le parent qui va coacher, tu sais, qui nous écoute en ce moment puis qui il sait que dans quelques semaines va commencer la saison au niveau associatif ou peu importe, lui aussi peut prendre certains des conseils que vous amenez dans votre livre puis à une autre échelle peut-être amener ça de son côté.
Mais Antoine, je veux dire, moi je coach mon petit garçon au baseball, hein, ça fait 2-3 ans. Avec Sébastien Bougie, là, que vous connaissez peut-être, là, qui est un ancien très bon joueur ici au Québec. Moi, je coach les enfants de 7, 8, 9 ans de façon très semblable à ce que je coach les Olympiens. Là. J'utilise un langage différent, mais la discipline, la structure, les petits exercices de visualisation que je fais avec eux, de concentration, sais, je ne sais pas si j'en avais parlé sur le dernier émission avec vous, là, la dernière fois, mais à un moment donné, je me suis questionné, tu sais, au baseball, on dit souvent, regarde la balle, tu sais, aux jeunes, regarde la balle quand elle s'en vient, mais regarde la balle, pour moi, c'est tellement large comme concept. Puis quand il était plus jeune, mon garçon, il frappait la balle sur un tee. Puis, tu sais, on disait, frappe, regarde la balle, regarde la balle. Je lui ai dit, au lieu de regarder la balle, regarde une couture sur la balle. Tu sais, il y a combien de coutures sur une balle? C'est quoi, il doit en avoir une centaine là, ou à peu près, là?
Je il regarde doit avoir une un couture.
Chiffre. Je dis, regarde une couture. Fait que là, je demandais aux jeunes de piger une couture sur la balle. Mais là, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à leur concentration? Au lieu que ce soit un peu plus étroit, ça regardait juste la couture. Bien, les probabilités qu'il frappait la balle là, augmentaient de façon, c'était significatif, là. Là, bang! Puis là, souvent, l'enfant arrivait au premier but. Puis il me regardait, que j'étais près du marbre. Là, comme t'as tout émerveillé. Il dit, comment tu savais que j'allais frapper la balle? Fait que, tu sais, c'est tous des petits concepts comme ça que peu importe l'âge, la préparation mentale, pour moi, elle peut toujours être présente. C'est juste une question de l'adapter avec un langage qui est approprié. Mais,
Ça me fait penser, JF, là-dessus. Puis, on n'en parle pas dans le livre, mais tu sais, j'entends des affaires de même, ça me fait penser à d'autres choses. À un moment donné, je disais à des athlètes, c'est pour s'approprier un peu un élément du jeu, tu sais, j'avais dit en défensive, tu sais, quand la balle est frappée vers toi, là, il y a une magie qui s'installe. Tu sais, c'est plus marqué, quand la balle s'en vient vers toi, là, c'est plus marqué Rawlings ou Wilson ou la marque là-bas, c'est ton nom de famille qui est marqué dessus. Ça se transforme. Puis là, ton nom de famille, ben, tu veux le protéger, tu es fier, fait qu'il faut que tu prennes la balle, tu sais. C'est à toi, là. Tu peux pas l'échapper. Ça fait partie de ton jeu. Puis là, quand tu l'attrapes, tu la lances vers le premier but. Le nom change en même temps. C'est de la magie. Puis là, il change pour le nom de la personne au premier but. Fait que là, il faut que tu l'attrapes aussi. Fait que c'est juste des petits trucs comme ça qu'avec les gens, c'est OK, c'est mon nom marqué dessus. Là, faut, j'ai pas le choix. Là, faut que je l'attrape, etc. Faut que je sois fier de ça. Fait qu'il y a plein d'outils de même qu'on peut utiliser pour changer des fois le vocabulaire pour les jeunes qui comprennent un peu.
Absolument. J'aime le changement de nom. J'aime ça. Juste avant le show, juste avant d'entrer en onde, André a mentionné, « Hey, Jeff, le chapitre 1, il va falloir que tu en parles. » C'est quoi le chapitre 1?
C'est quoi le chapitre 1? Je ne rappelle même pas. Non, je pense que c'est kilomètre zéro, le chapitre 1. Mais le kilomètre zéro, un peu, c'est la fondation de votre équipe. C'est la fondation de votre programme. C'est la fondation d'une ville. Ce qu'en fait, kilomètre zéro, c'est que, je vais te vendre le même exemple, mais si tu es à Madrid, en Espagne, tu rentres sur ton GPS, Barcelone, il va t'emmener au kilomètre zéro. Fait que c'est là que la ville a commencé, dans l'ancien temps. Tu sais, tous les chemins.
C'est Madrid, pas Barcelone.
Oui, Barcelone, oui, c'est ça, excuse. je me suis mélangé. Il est de bonne heure le matin, d'accord. Puis c'est un peu l'adage, tu sais, tous les chemins mènent à Rome, là, fait que c'est le kilomètre zéro. Puis dans ces villes-là, souvent, il y a soit un monument ou un petit café qui ouvre, etc., qui signifie vraiment cet endroit-là. Fait que le parallèle qu'on fait avec le sport, c'est que lorsqu'on n'est pas trop certain qu'est-ce qu'on doit faire, quelle décision qu'on doit prendre, on doit toujours revenir sur nos principes directeurs, nos valeurs fondamentales, comme entraîneur, comme programme, pour prendre les meilleures décisions possibles. Dans une ville, quand on est perdu, on ne sait pas trop où s'en aller, on vient au kilomètre zéro, on sait qu'à partir de là, je peux m'en aller n'importe où. Fait que c'est la même histoire qu'on raconte à partir de là. Puis on challenge les coachs à se poser la question, mais c'est quoi toi ton kilomètre zéro? C'est quoi les valeurs qui t'habitent? C'est quoi les valeurs qui guident tes décisions à chaque jour de sorte que tu sois toujours dans une position pour prendre les meilleures décisions possibles, peu importe l'endroit où tu te trouves dans ta tête?
Ça montre l'importance d'avoir aussi des bases solides à toute formation sportive ou à tout événement, parce que plus tu as des bases solides, plus tu es capable de construire une bonne maison ou une bonne équipe sportive.
C'est ça.
Ben, tu sais, par rapport à les valeurs, André, si je peux me permettre, il y a un chapitre, je ne sais plus dans quel chapitre qu'on parle de ça, là, mais c'est de créer, tu sais, une espèce de vision puis des valeurs d'équipe en fonction de le nom de ton équipe. Tu sais, souvent, surtout dans le sport amateur, on ne décide pas notre nom. Tu sais, on se fait donner des chandails puis on s'appelle les Vikings pour l'année. Mais c'est un exercice qui peut être super intéressant à faire avec les athlètes, peu importe quel âge ils ont. C'est de faire des recherches. Ça représente quoi un Viking? Tu sais, puis un Viking, je ne connais pas des Vikings tant que ça, mais je présume que ça représente, tu sais, des explorateurs. Ça représente, tu sais, des gens qui sont prêts à travailler en équipe pour se défendre. C'est des êtres qui sont forts, qui sont musclés. Fait que tu sais, il y a plein de parallèles que tu peux faire avec tes valeurs d'équipe, avec le nom de ton équipe, puis de pas nécessairement obliger l'entraîneur de déterminer c'est quoi les valeurs. Ça peut être les athlètes aussi, ça peut être vraiment un exercice collectif. sais, avec Google maintenant, c'est tellement facile de trouver de l'information. Puis imaginez, les gars, là, si on crée en équipe, tout le monde fait partie de ce discours-là, puis on ressort deux ou trois valeurs claires d'un viking, puis qu'on revient à ces valeurs-là. À tous les pratiques, on en parle, on a-tu été des vikings aujourd'hui, les garçons ou les filles? Ça peut être super intéressant. Donc, ça prend pas grand-chose pour être créatif, créative. Puis tu peux surtout bénéficier de ça pour te permettre d'avoir une meilleure chimie d'équipe.
S'approprier du nom, en fait.
Tout à fait.
C'est pas juste un nom sur le chandail, on s'approprie le nom du chandail, on sait pourquoi on s'appelle comme ça, puis on amène une importance au logo devant.
Mais tu sais, l'année passée, c'était un exemple, parce qu'on écrivait ce chapitre-là, moi et André, pendant l'été, puis le nom de l'équipe à mon fils, c'était les Astros. Puis tu sais, moi, je sais c'est quoi un Astro avec Houston, puis tu sais, le Galaxy, puis tout ça, mais les enfants ne savaient pas c'était quoi des Astros. Fait que je leur ai donné le devoir, avant la prochaine pratique, d'aller à la maison avec leurs parents, faire des recherches Internet de c'est quoi des Astros. Et la conversation qu'on a eue, là, il y avait 8 ans, les petits garçons, là, puis on avait une petite fille aussi sur l'équipe, c'était extraordinaire. Puis on revenait toujours à ça, on a-tu été des étoiles aujourd'hui? On a-tu joué comme des Astros? Puis ça les gardait vraiment concentrés là-dessus. C'est vraiment cool.
Ouais. J'ai une question sur Facebook, puis je sais qu'on en a déjà parlé rapidement, mais je veux juste que vous reveniez là-dessus. Le livre est en anglais. Les gens demandent pourquoi il est en anglais tout d'abord, mais je pense aussi que vous avez obtenu, pas les droits, mais il va sortir en français également, là. Mais André, vas-y donc.
Oui, bien, le livre va être disponible en français dès cet automne. On est super chanceux d'avoir une belle collaboration avec les Éditions de l'Homme. Le livre est présentement en traduction, puis il va partir en production là, dans le courant de l'été, une fois que le manuscrit va être traduit dans son entièreté. Puis on va être bien content de pouvoir l'offrir dans les deux langues. On avait déjà avec GF, avec son premier livre, donc on avait déjà une porte d'entrée avec une maison d'édition à Toronto. Fait qu'on s'est lancé, dans l'écriture en anglais en premier, mais tout en ayant en arrière de notre tête qu'on voulait justement le faire dans une deuxième langue, en français, éventuellement, puis qui sait, peut-être dans une troisième langue, dépendamment comment ça va, on verra.
Allez-vous, comme ton livre Olympien au bureau, l'avoir en mode audio avec peut-être vos voix pendant la lecture?
André n'a pas l'air sûr.
Oui, c'est ça.
Pour la version anglophone, ça ne sera pas nos voix. La version francophone, c'est à voir. On n'a pas parlé de ça, André, encore, mais elle est disponible, le livre est disponible en audio en anglais.
Ah, OK, ouais. Parfait. Ouais. Excellent. Ouais. C'est vraiment cool parce que, tu sais, pour le livre Olympien au bureau, puis plusieurs autres livres, des fois, je l'achète physiquement, puis j'aime beaucoup l'avoir en audio pour juste continuer la lecture, des fois, dans l'auto ou en allant prendre une marche, m'entraîner, peu importe. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un must de l'avoir en mode audio aussi, là. Puis André, c'est intéressant d'entendre la personne qui a écrit le livre aussi. Fait que je considérerais cette option-là.
On peut voir ça.
Il va dormir là-dessus.
Les boys, avant de se quitter, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je veux vous entendre chacun votre tour sur, justement, je parlais tantôt, les Olympiques. GF, tu arrives des Olympiques. Comment s'est passée ton expérience aux Olympiques? Parce que c'est pas ta première, mais à chaque fois, ça doit être différent.
Oui, bien, écoute, les Olympiques pendant une pandémie, c'est quand même particulier, là, puis surtout en Chine. Première chose, je veux dire, c'est que je lève mon chapeau à la communauté chinoise. Ils ont fait un travail exceptionnel. Écoutez, organiser des Jeux Olympiques en pleine crise Omicron, c'est incroyable. Hein? Puis il n'y a pas vraiment eu de virus là-bas. Là, on se faisait tester à tous les jours. Fait que les athlètes ont pu faire des Jeux. Puis pour moi, c'est ça qui était le plus important. Ils ont travaillé tellement fort pour 4 ans. Pour ces Jeux-là. Donc, c'était très positif, surtout au niveau de la récolte des médailles. Là. Les athlètes, ils m'ont tellement impressionné. Moi, je m'avais donné comme objectif, je travaillais avec 8 athlètes dans 6 différents sports. Si on revenait avec 4 médailles, j'étais vraiment content. 5, ça a été un bonus. Ils sont revenus avec 6 médailles. Fait que 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent, 2 médailles de bronze, puis plein d'histoires. Juste faire un lien avec notre livre, là, plein d'histoires de travail d'équipe exceptionnel. Ces athlètes-là sont entourés de plein de spécialistes. Hein. Ouais. Fait que, ouais, c'était vraiment une expérience vraiment plaisante, puis je vais m'en souvenir pendant longtemps.
André, tu viens de changer, je ne veux pas dire de carrière parce que tu gardes quand même le même environnement, mais tu as changé de sport complètement de...
J'étais en apprentissage, je le suis encore, je pense que je vais l'être encore pendant la première année. Là. Je pense que c'est normal. Juste de comprendre l'ensemble des numéros, l'ensemble des gens, c'est une place avec 2500 employés, beaucoup de monde. Hein. Fait que comprendre la structure, comprendre la réalité de chacun, avec des gens qui proviennent de milieux, de différents milieux, ils arrivent de différents pays, etc., de comprendre les différences culturelles également. Fait que c'est un nouveau vocabulaire que j'apprends, j'aime beaucoup apprendre. Fait qu'évidemment, je suis une personne curieuse, fait que je pose énormément de questions, je vais être fatigant pour certaines personnes, mais au bout du compte, c'est comme ça que je vais m'approprier ma job. Et c'est comme ça que je vais grandir là-dedans aussi. Fait que jusqu'à date, ça se passe bien. J'ai bien hâte de voir des spectacles. Ça s'en vient dans les prochaines semaines aussi. On en a un. Je fais la promotion en même temps. Cousa qui s'en vient à Montréal cet été. Fait que ceux qui sont à Montréal, on en a un autre à Trois-Rivières, fin de l'été à Gatineau. Fait que venez nous voir. Puis vous allez voir le spectaculaire des numéros qui sont présentés. Puis le haut niveau d'artistes, athlètes qu'on peut avoir dans un milieu comme celui-là.
Ah oui, absolument. Jeff, est-ce que tu as des. Je sais pas, es-tu impliqué avec le Cirque du Soleil, toi, ou avec des athlètes qui sont là?
Oui, bien moi, j'ai travaillé là à temps plein là, pendant 5 ans, de 2008 à 2013. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait des petits mandats à titre de consultant de temps en temps, mais beaucoup moins maintenant. Là. Okay. Mais j'ai travaillé là il y a longtemps. Ouais,
OK, OK.
Ouais.
En concluant, messieurs, votre livre, on peut le retrouver où?
Amazon. Les gens qui veulent l'acheter. Ouais, Amazon, Indigo, c'est peut-être les deux endroits là, au Canada les plus faciles. Okay. Où vous pouvez vous le procurer le plus rapidement, surtout avec Amazon. Je pense qu'en 24 heures, vous pouvez l'avoir livré chez vous.
Ouais.
Il est disponible depuis cette semaine, donc on vous invite à vous le procurer. Sinon, ben, ceux qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais, l'automne va être disponible. Peut-être qu'on aura l'occasion de se voir dans les salons du livre aussi.
Oui, absolument.
Mais sinon, ce que je vais ajouter, c'est que moi et André, on a aussi plusieurs centaines de copies à la maison. Donc, s'il y en a qui veulent, tu sais, une dizaine de copies, une vingtaine de copies, puis on peut même les autographier, les livres, juste communiquer avec nous par les réseaux sociaux.
Merci, messieurs. Bon week-end à tous.
Membre de la famille H2O Web Media.